Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur.
Cher journal, je suis très heureux de te retrouver ce soir pour parler d'une nouvelle œuvre culturelle avec toi. Je ne suis pas seul car, comme d'habitude, mon ami imaginaire, artiste frustré des années 70, séducteur des plus belles femmes de son temps, quoique ayant un fantasme colonialiste particulièrement étrange, est avec moi. Je suis bien sûr avec Gaspard. Bonsoir Gaspard.
Bonsoir Raphaël, je suis ravi.
Ta voix c'est « Bonsoir Raphaël !»
Parfait, c'est cette introduction totalement improvisée.
Et ce soir, cher journal, j'aimerais te parler d'une BD... C'est comme ça pendant tout le podcast. Hein.
Préparez-vous, c'est un enfer. C'est un épisode exceptionnellement qui dure 8 heures.
Voilà, avec une petite voix d'enfant. J'aimerais te parler d'une BD que j'ai lue, qui m'a fait tout drôle dans ma culotte. On va parler de Souvenirs d'un jeune homme, de Gérard Lozier. Cher journal, si tu m'en veux pas, pendant ces quelques pages que je vais écrire, je vais reprendre ma voix normale. Si ça te dérange pas trop. Gérard Lozier qui est né en 1932 à Marseille, qui est mort en 2008 à Paris. Entre les deux, il a changé de team, hein, pour lequel
il a fait des trucs, quoi.
Oui, il s'est passé des trucs, ouais. Entre 32 et 2008, il s'est passé. Il était auteur de bandes dessinées, de pièces de théâtre, ainsi que réalisateur de films, et Gaspard pourra nous en parler, puisqu'après...
Il a réalisé Le plus beau métier
du
monde.
On peut en parler après. Merci.
Mais après, je parlerai après, du plus beau métier du monde, son film qu'il a réalisé.
Tu ne dévoiles pas tout de suite, il a réalisé un film. On ne dira pas lequel. Après des études de philo, il rentre aux Beaux-Arts pour étudier l'architecture. À la sortie de ça, il va trois mois au Brésil en vacances, sauf qu'il va y rester 8 ans, de 56 à 64.
C'est marrant parce que cette petite vanne, elle est sur la page Wikipédia, elle est liée.
Sa première BD qu'il sort en 1965 est Un certain malaise en France.
T'as oublié de dire le petit 1 au-dessus d'un certain malaise.
Oui.
Référence à la fin de la page.
Oui, mais ça vient de Wikipédia. Il y a un problème ?
Il n'y a aucun problème.
Bien. Il enchaîne toujours en 1974 Des tranches de vie pour le journal Pilote et Les extraordinaires aventures de Zizi et Peter Panpan pour le magazine Lui. Les trois qu'on vient de citer, je les ai lus. J'ai bien aimé. Dans les années 80, il commence à s'orienter vers le métier de scénariste pour le théâtre et travaille notamment avec Jean-Claude Martin pour adapter ses tranches de vie avec Daniel Auteuil.
Genre, je sais qui est Jean-Claude Martin.
Oui, je sais pas qui c'est, mais Daniel Auteuil, je connais.
Et il y avait quand même Patrice Fagnon, hein, ouais. Le fameux.
Et surtout Éric Campland.
Ah bah oui. Ah bah.
Bah,
et Adolphe Eichmann.
Adolphe Eichmann, ouais. Pardon. Oui, c'est des super films.
Wow.
Et il travaille aussi pour le cinéma, puisqu'il nous a fait quoi, Gaspard ?
Et il a réalisé Le plus beau métier du monde. Le plus beau métier du monde. T'as fait avec Gérard Depardieu autour de...
La prostitution.
Non, pas du tout. La profession de...
Maman.
Instituteur.
Ah bon ?
Oui. C'est le plus beau métier du monde. Bah,
tu diras ça aux instituts dans le 93, je suis sûr qu'ils seront ravis de l'apprendre.
Écoute, l'idée, c'est un peu ça. C'est Gérard Depardieu qui va enseigner dans une petite école de banlieue.
Putain,
si tu avais fait ton taf jusqu'au bout, tu aurais regardé le film, mais bon, comme tu te contentes de lire la page Wikipédia.
Bah oui, parce qu'il n'y avait pas sur Wikipédia marqué, donc de toute façon, c'est pas.
Il n'y avait pas de lien vers les sites de streaming.
J'ai allé regarder mes sources, il n'y avait pas.
Il a également été dialoguiste et un peu scénariste pour le film, et surtout, il a été dialoguiste pour le film que la France entière adore et adore au revoir, qui est Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi.
Un film un peu spécial quand même, parce que.
Un film extraordinaire.
Alors, extraordinaire, mais quand tu le compares à la suite. C'est quand même par rapport à Mission Cléopâtre, c'est un peu bizarre, non ?
Je pense qu'on parle d'un film totalement incompris et finalement qu'on n'a peut-être pas, on n'est pas très nombreux à vouloir comprendre.
Mais après ses escapades au cinéma, il va retrouver son amour premier, puisqu'en 1992, il revient à la bande dessinée avec Portrait de l'artiste, dans laquelle il va revenir sur le héros qu'on va aborder dans la BD d'aujourd'hui, protagoniste de son album Souvenir d'un jeune homme, dont on va vous parler. Et il reçoit le grand prix de la ville d'Angoulême lors du 20e festival de la BD qu'on a l'habitude de vous parler.
Bah bon, on se sert dans les stocks du festival d'Angoulême. Alors, tous ceux qui ont eu un prix, préparez-vous, il va y avoir une émission sur vous.
Ouais, tous. J'ai dit tous, même ceux qui dérangent. N'est-ce pas, monsieur Eichmann, monsieur Adolphe H.
On manquera pas de faire la BD de Médine aussi, hein.
Oui, BD incomprise, hein.
Oui, comme toutes les autres.
Son premier album Jihad était quand même vachement.
C'était un très très bel album.
Très incompris. Donc voilà, on parle de ce monsieur. Alors moi j'avais envie d'en parler ce soir.
Plus beau métier du monde, c'est le film qu'il a réalisé.
Voilà, ouais. Avec Claude Zidi et Gérard Depardieu.
Non, il a réalisé tout seul.
Astérix
Claude Zidi, réalisateur d'Astérix
Obélix, a été ensuite avec la mission Cléopâtre.
C'est ça.
Pour aller se voir refuser un concert. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, pardon. Je voulais en parler parce qu'en fait, ces BD, c'est les BD qu'il y avait chez mes grands-parents, les BD de Lozier. qui sont pleines de cul. Alors quand j'étais petit, moi, je regardais que les images. Et puis là, j'ai eu l'occasion du coup de le relire parce que j'ai envie.
Tes parents qui ne sont pas du tout de gauche, hein, on peut le dire.
Non. C'est pas des instits.
Non, mais c'est, oui, c'est vraiment des BD. C'est des BD un peu trashouille.
BD un peu trashouille de gaucho.
Non, mais justement, moi, c'était ça ma grande surprise, c'est que c'est vraiment pas de gaucho en fait finalement.
Bah, ça se fout de la gueule du gaucho de
ça,
base.
Ça se moque même beaucoup du gaucho et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que L'Osier était un personnage bien à droite en fait. Et
bah, peut-être qu'au Brésil il a l'air joie.
Oui, c'est ça. Adolfo.
Adolfo L'Osiero.
C'est un type à fond libéral et tout. Et au contraire, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il va se mettre du point de vue des petits bourges pour se moquer, en tout cas dans cette BD,
des bobos, quoi.
Des bourges qui se prennent pour des prolos, quoi.
Bah, c'est ça qui m'a fait marrer parce que du coup, moi, cette BD, je l'ai un peu redécouvert avec cet épisode, parce que moi je le regardais, parce que, spoiler alert, il y a des nichons, et quand j'étais petit, ben, j'étais content de pouvoir trouver une BD un peu comme ça. Mais là, du coup, j'ai découvert en lisant vraiment le texte que c'était, bah, ça crache sur le...
C'est à charge.
C'est à charge contre les bobos parisiens, les petits bourges de manière générale, et ça m'a bien fait rigoler. Et toi, Gaspard, qu'est-ce que t'en as pensé?
Eh bien, merci de m'interroger quand je suis pas une petite bien.
Gaspard, tu peux nous faire un petit discours?
Écoute, bah, comme ce que je viens de te dire, moi je trouve que j'étais très surpris de l'aspect très cynique.
Le plus beau métier du monde, c'est ça que tu veux dire.
Exactement. Comme le rappeur, voilà, je trouve que c'est très cynique, mais à tel point que je pense peut-être que le cynisme tue le cynisme, et bon, je trouve que c'est un brin lourdeau.
Est-ce que peut-être tu peux nous faire un petit résumé
pour
dire
pitch,
pourquoi...
Bah, ça va être l'histoire d'un jeune homme de 18 ans, c'est dès la couverture de la bande dessinée.
Peut-être que tu peux nous lire
la bande dessinée. Voit lui avec ses yeux à moitié fermés, et son petit air assez insupportable, il a toujours sa petite chemise ouverte et il pense j'ai 18 ans déjà et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Rien.
Rien.
Alors, c'est un type qui est en totale révolte avec son petit milieu bourgeois
avec sa
parisien.
Cellule familiale.
Exactement, et qui est persuadé d'être un révolutionnaire dans l'âme, quelqu'un qui va enfin faire bouger les classes et qui est persuadé que la vérité est du côté
de l'opprimé.
Oui, exactement. Et de la classe, en tout cas, ce qu'il estime être la classe ouvrière.
Et peut-être que sa rencontre avec la dite classe.
Comme on dit, il y a un moment où bah, ça décale.
Alors là, c'est
y a un moment où...
J'ai une idée de film.
Alors, ça
c'est
décale.
Un bourgeois qui va chez les pauvres.
Bah,
ça se passe pas comme prévu.
C'est un peu ça. Et il va subir, en fait. Alors, ça, je trouve ça très intéressant. Ça va être baigné du mépris de ce type, en fait, finalement, qu'il pense ne pas voir, mais il méprise totalement la classe populaire qui regarde de haut depuis le début. Et c'est vraiment... c'est regarder la gentillesse des gens simples qui n'ont rien, quoi.
Oui,
c'est horrible.
Mais en vrai c'est à mon adorer parce que le mec est vraiment genre c'est magnifique. Ils sont tellement simples.
C'est ça, mais c'est exactement
oui,
ça.
C'est beau, la simplicité.
Ils ont la vérité, voilà, ils mangent une boîte de raviolis, c'est ça la vérité.
Ouais, eux ils détiennent la réalité. J'ai envie d'être de leur côté, de les aider, de les éduquer. C'est un petit peu le white savior
ouais, qui va en Afrique se prendre en photo avec tous les enfants
en disant j'ai vraiment fait une chose belle.
C'est ça.
Mais parce qu'eux ont su rester simples.
Mais du coup, tout son parcours à lui, c'est assez drôle. Et puis, il y a plein de petites scénettes où finalement, on se retrouve vraiment de son point de vue. Et c'est très drôle parce qu'on se dit, putain, en fait, il est imbérable. Mais
t'as vu le blaire qui se tape.
Bah, alors, faut savoir qu'en fait, personne n'est épargné déjà.
Oui.
Ils s'en prennent tous plein la gueule.
Même ses parents.
Et ouais, non, c'est ça.
Alors, on va pouvoir en parler, je me suis retrouvé très vite du côté des parents à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce gosse de merde, quoi?
Ah, le père est en fait assez insupportable, et puis bon, on verra la suite, mais spoiler alert, on comprend que le père a eu le même parcours que son fils.
Ouais.
Mais la mère, en fait, moi j'étais surtout pour la maman, je trouve ça
mais
horrible
oui,
ce qui lui arrive dans toute la BD.
Maman.
Elle morfle, quoi.
Ouais. Elle en prend pour son grade.
Et son frère qui ressemble à Ken. Enfin
ouais.
Bon,
on va venir dessus.
Non, mais du coup, non, j'ai pas passé un moment déplaisant. C'est très drôle. Mais je dois avouer la vérité, c'est que je m'attendais à un truc très trash. Et j'étais un peu. Je suis un peu resté sur ma faim, quoi.
Ah, bah écoute, la fois prochaine.
Et toi, mon Rafichou Fichou, qu'est-ce que t'en as pensé?
Bon, écoute, moi, je te dis, ça m'a plu de redécouvrir un peu ce truc que je connaissais par cœur par les images. Là, j'ai un peu plus attardé sur le
sexe. Est-ce que t'as eu
le texte.
Un morning wood dès que t'as vu...
Bah, il y a toi, des petits souvenirs qui reviennent,
c'est
quoi.
C'est ça.
Mais oui, si tu veux qu'on fasse du plus trash la semaine prochaine, je sais pas, on fera juste un porno... un script de porno, tu sais, un storyboard.
C'est ça, bon, de toute façon, dans 2-3 séances, on se fait ça à l'autre Pasolini, donc voilà. Ça devrait aller.
Bah, j'espère que ça va être... J'en attends beaucoup, en tout cas.
Oui, bah écoute, on va beaucoup s'exciter.
Et puis, bah du coup, bah, je te propose tout de suite qu'on passe à l'histoire.
Jeune homme, tu parles comme un homme, à croire que t'as vécu 1000 ans et plus. Je
nomme. Tu parles comme un homme, à croire que dans la vie t'as tout appris.
Et l'histoire s'ouvre sur une page de journal intime de Michel Choupon, 18 ans, qui n'a rien fait de sa vie à cet âge-là, et veut par l'écriture de ce journal combattre son mal-être adolescent et résoudre le problème de son existence, qu'il tait encore pour le moment. Mais on reviendra sur ce problème.
Sur ce problème, et surtout en fait on va comprendre que la BD va être partagée en plusieurs parties qui vont à chaque fois s'ouvrir sur ce fameux journal, et dans lequel il se rêve en fait en grand écrivain maudit. Et il se rêve déjà, en fait, tu sens même qu'il a un profond désir, c'est que quelqu'un tombe sur son journal pour lui dire que c'est un génie, quoi.
Mais il se dit quand même, ça ne deviendra pas une œuvre littéraire, je n'ai pas cette prétention bourgeoise. Ouais, voilà, prétention bourgeoise.
D'estimer que mes simples pensées à moi appartiennent au peuple. Non, il est en train de déverser sa haine.
Contre tout, hein.
Ouais, c'est ça.
Mais en fait, alors on va le comprendre puisqu'on abordera le problème, mais la haine, je pense qu'elle a une solution plutôt simple et une raison plutôt simple aussi.
Mais du coup, il est rapidement sorti de ses pensées littéraires et il est appelé à table.
Oui, parce que par un truc très prosaïque, j'étais sur la poupe de mon fier navire,
c'est ça.
Arborant les...
On pense en fait...
À table, Michel.
C'est
à
ça,
table.
On est en train de lire Baudelaire, en fait, pas du tout, on est chez Tom Tom et Nana, quoi.
C'est ça, clairement. Donc sa mère, gentille sa mère, on reviendra dessus, qui l'appelle
gentil.
À table. Ben oui, elle est gentille comme tout, la pauvre, elle vit en enfer avec ce fils de merde, qui l'appelle à table. Et là, on comprend qu'il aime pas trop sa famille, le Michel.
Ah, il est très énervé. Alors, il est déjà très énervé contre le simple fait que sa famille, en fait, vive dans des quartiers bourgeois, qu'il soit pas en train de pleurer la classe ouvrière toutes les 5 secondes.
Ou les bombardements à Beyrouth.
Oui, plus tard, par exemple.
C'est terrible.
Et donc, il est très énervé.
Il est surtout
insupportable parce qu'il est très tête-à-claque, parce que, en gros, il a toujours un petit sourire narquois.
Oui.
Et il n'arrête pas de dire à ses parents, genre, comme tu veux, de toute façon, je m'en fous. Enfin,
moi, j'aurais trop aimé qu'il déteste sa famille parce qu'il se prend des grosses baffes par son père, tu sais, qu'il le met trop mal à l'aise.
Ah non, mais son père, il est très énervé. Ils n'arrêtent pas de s'engueuler en plus sur des trucs, en gros, bah, c'est moi qui fais la gueule, non, c'est toi qui fais la gueule.
Oui.
Et
trucs ridicules.
C'est ridicule, ouais.
Mais alors, oui, il déteste sa famille. Et je cite, il déteste cette famille qui véhicule sous des allures libérales toutes les vieilles valeurs phallocrato-capitalisto-élitistes de cette société pourrie.
Et alors, rapidement, en fait, c'est là où tu te dis que merde, en fait, la BD de Lozier est très actuelle. Puisqu'on est sur un type qui se rêve en social justice warrior, quoi. Totalement. Alors,
complètement. Que tout est un combat. Et que oui. De toute façon, en fait, c'est ça qu'on va se rendre compte, c'est que de toute façon, comme t'es son père ou sa mère, t'es. Quoi que tu dises, tu seras un connard, l'ennemi, quoi.
Tu seras horrible parce que tu es un petit bourgeois. Et alors, ce qui est très drôle, en fait, ça va être l'ironie de toute la séance. Donc, il s'engueule avec toute sa famille et il décide de quitter la table et il va au bistrot en bas de chez lui.
Ouais.
Et on comprend que le bistrot en bas de chez lui, bon, c'est Saint-Michel à Paris. Donc, on est dans le cœur de Paris.
Alors, il vit dans le 16e, ça, en fait, on l'apprendra après.
Ah oui.
Il se met à marcher et il se retrouve dans un bistrot à Saint-Michel.
Alors, le peuple, il est dans le 5e arrondissement.
Oui, voilà. Et le peuple, il marche du 16e au 5e.
C'est ça.
Et ça lui a fait mal aux pieds parce que les Winston, elles sont pas rembourrées.
C'est ça. Et d'un coup, à nouveau, en fait, il y a deux narrations. Il y a celle qu'on voit et puis il y a ce que lui se raconte. Et il s'imagine en fait en grand poète littéraire, il commence à fantasmer sur l'idée de la femme seule assise au bar, au bistrot, et il est vite distrait par le pauvre du coin.
Oui, c'est ça, c'est
clairement ça. Mais il le regarde, il le regarde comme.
Il est rattrapé par la réalité.
C'est ça, mais sauf qu'il le regarde comme la Vierge Marie, si tu es en mode genre, ah regarde, cet ouvrier qui était obligé de noyer son désespoir prolétaire dans l'alcool. Et c'est super marrant.
C'est limite s'il arrive pas vers lui en disant, je te comprends, fils.
Non, ça, et il adore le poivreau du coin, quoi.
Mais alors plus le poivreau qu'on va le voir, et la nuisance la plus extrême de tous les temps, c'est juste le pire mec.
Ça m'a fait penser, il y avait un sketch de Lascar comme ça. Avec genre un vieux clodo, un mec hyper bourré au kebab qui demande 5 euros pour qu'on lui paye un sandwich. Et finalement, t'avais un type qui était en mode genre, bah, ça va, laissez-le tranquille, il lui paye son sandwich. Et ça devient la pire nuisance, le clodo qui le suit, genre il veut aller prendre une douche chez lui, c'est horrible. C'est exactement ce segment-là, en fait.
Mais c'est trop ça, parce que du coup, le mec commence à se faire virer par le patron qui refuse de le servir à nouveau. Il se fait même casser la gueule par le patron parce qu'il commence à être violent. Ce sur quoi Michel le récupère en traitant copieusement le patron de SS.
Oui.
Et le patron qui le traite lui de petit con. Bon, petit con, tu sais quoi.
Non, mais en plus, c'est trop parce qu'à chaque fois, t'as envie de revoir la scène et du point de vue des autres où t'as envie de dire, mais ce petit con, mais il se prend pour qui,
mais quelle
quoi.
Merde. Surtout, tu le vois arriver avec ses boutons sur la gueule et tout, ses grands airs.
Et sa petite chemise, en fait. Le pire, c'est que même dans son attrait physique, il ressemble au petit bourgeois, quoi.
Bah, il est un petit bourgeois, il n'y a pas pas de, d'autre manière de le dire. Et du coup, il se décide de faire sa BA parce que, après tout, c'est noble et c'est un homme opprimé qui est cassé par la société. Donc, il va faire quoi?
Au début, il dit je te ramène au métro.
Oui.
Alors, je te ramène au métro. Une fois au métro, il dit non. Il le dit pas au effort, on voit qu'il le pense, il se dit « Non, je peux pas le laisser, regardez comme il est beau ce prolétaire, il faut que je le ramène chez lui. » Puis une fois chez lui,
qu'est-ce qu'il est beau.
C'est ça. Et au pire, il se retrouve du coup dans la rame bondée.
Oui.
Et avec le mec
avec
qui
le pire truc.
Qui est libre mort. Alors faut imaginer, c'est comme si vous rameniez votre petit ou petite copine qui est black ou asiatique ou quoi que ce soit, un dîner avec votre vieil oncle raciste.
Oui.
C'est exactement la même situation.
Et que le tonton raciste, lui, il a eu la troisième mi-temps avant le dîner.
C'est ça.
Donc il est déjà chaud dès l'entrée.
Lui, il peut y aller, quoi.
Lui, il fait bon. Vous savez quoi, si on parlait de Marine Le Pen tout de suite, histoire
alors
de.
Alors, les comme...
comme ça, c'est fait, quoi.
Là, celui qui commence à expliquer que lui, il a fait la guerre d'Algérie.
Alors, je cite.
Il a bien fait la guerre d'Algérie, quoi.
Il insulte copieusement les bougnoules, les crouillas, les nègres, les mal blanchis, les pédés, les chevelus, etc., etc. Là, je viens de vous citer ce qu'il disait. Hein,
ah oui.
Donc concrètement, c'est pas le gentil prolétaire qui détient la vérité de la terre, tu vois.
Et pourtant, il continue de le regarder en mode. Bon, il y a un moment où il dit putain, fais chier un peu quoi.
Merde,
je suis tombé sur le mauvais prolo entre guillemets.
Mais en fait, ce que j'ai là, c'est qu'il y a ses pensées, mais en même temps, tu vois sa gueule et tu sais, il a perdu son sourire, il
ah,
se tient un peu
fait,
éloigné
ouais.
de lui et tout.
Non, mais tu vois toute l'ironie en fait. Et là où ça va être un peu ça, tout le mécanisme de la BD, c'est sous couvert de bonnes intentions faussement de gauche, le mec se retrouve face à des situations où. Ou en fait, ses convictions sont complètement mises à l'épreuve parce
mais,
que.
Et c'est exactement ça.
Sauf que là, il n'y a rien de politique dans le fait de ramener un mec bourré chez lui. Quoi.
Tue-le, je te dis de le tuer.
Mais c'est ça.
Je n'ai fait que suivre les ordres,
c'est
finalement.
Exactement ça.
Est-ce que ce n'est pas ce que tout révolutionnaire voudrait? Mais alors, du coup, il arrive à le ramener à Montreuil. Et puis là, bah, le clodo, il se dit bon. Ils vont dans une espèce de terrain vague. Et le clodo, il fait bon, bah, baisse ton froc, je vais te donner ce que t'attends, espèce de tarlouze.
J'ai compris pourquoi tu m'as ramené.
Et bah, viens. Il fait, ah, mais non,
il
y a prise.
Il sort la Bible de Jésus-Christ.
Voilà.
Il lui lit les évangiles.
Et ce à quoi on voulait vous amener ce soir, en fait, on ne vous parle pas d'une BD dépravée.
Vous êtes bien sur Prière Païenne.
Prière Païenne Podcast.
C'est pas la chanson de.
De quoi on parle aujourd'hui, Gaspard? Oh, l'évangile selon Judas, lol.
N'écoutez pas Judas, c'est un traître.
Mais donc, le clochard finit par s'énerver un peu contre lui en disant « Mais tu veux pas que je te suce la bite ?»
Ouais.
En fait, lui, il fait style d'être bourré depuis tout à l'heure. Il a juste envie de sucer la bite du
non,
petit gars.
Et puis, il lui sort un truc genre « J'ai rien contre les PD, fais pas ton PD, quoi.
» C'est vrai parce que depuis tout à l'heure, il tient un discours hyper violent. Mais en fait « Mais viens, je vais te faire les fesses. »
Ce truc qui reviendra plus tard dans la BD avec « Oh mon Dieu, je ne suis pas... je n'arrive pas à accepter une relation homosexuelle. Quel monstre je fais, quoi. »
Oui, c'est ça. Mais du coup, il arrive à la porte de ce mec et on comprend en plus que comble de ce pochetron qui, après avoir insulté les Arabes, les Noirs et les homosexuels, vit en fait, a fait des avances à ce mec et vit avec une femme maghrébine.
Oui,
sa
plus,
femme est d'origine maghrébine.
Exactement.
Donc elle le ramasse complètement ivre-mort. Ça c'est quand même...
Il vous a encore fait croire qu'il avait fait la guerre d'Algérie, dire que c'était un résistant et qu'il s'est battu.
J'étais du mauvais côté. Eux au moins ils pouvaient se marrer avec les Allemands.
C'est le mec en fait, ce fantasme en salaud.
Papy, t'as la grande croix de l'armée de la résistance.
Oh putain, chier, si seulement je les avais tous balancés.
J'ai perdu ma jeunesse à être droit dans mes bottes.
C'est
alors
ça.
Que il se marrait avec les Allemands, putain, le one two two, il était à eux, quoi. Et là, qui apparaît dans l'entrebâilleur de la porte?
Salima.
Alors Salima, c'est une jeune femme aux formes volubiles.
Très belle.
Ouais, très bandante selon Michel.
Extrêmement bandante.
Et Michel tombe fou amoureux d'elle aussitôt.
Oui, alors il tombe amoureux d'elle et du coup il se dit bon bah il faut que je la revoie, il faut que je la revoie à tout prix. Donc il arrive à trouver un prétexte pour que Salima leur accompagne au métro. Ils discutent un petit peu, on comprend que Salima elle en a rien à foutre de lui et c'est une grande fille puisque elle lui montre son rasoir.
Ouais.
Alors c'est pas
un petit opinel.
Non, c'est un coupe-chou en fait.
Ah pardon.
Oui, c'est pas le 5 lames Wilkinson.
Je connais mal.
S'il y a quelqu'un qui m'emmerde, je le rase.
Tu sais, elle a une tourneuse électrique.
Ah putain, pas cool, il m'a rasé.
Ça coince la peau.
Ouais, c'est ça.
Oui.
Mais même pas de crème.
Non, c'est un vrai coupe-chou à la Sweeney Todd, enfin le truc bien vénère.
Oui, ah, d'accord, oui, bien crade.
Dit, voilà, tu as dit si quelqu'un m'emmerde, bon bah je lui coupe les couilles et puis on en parle plus.
Exactement.
Et lui, il est sur le charme, le Michel.
Et il propose en fait un date pour aller au cinéma, par exemple.
C'est ça. Et du coup, elle lui dit bon bah tu sais quoi, passe demain à Montreuil dans mon troquet. si je suis là, peut-être qu'on verra. On sent qu'elle en a rien à foutre. Michel rentre chez lui, après avoir copieusement cassé les couilles de sa mère parce que, je cite, c'est une bourgeoise de merde qui ne voit rien et elle n'est jamais allée à Montreuil.
Oui, c'est ça. Oui.
Elle.
Il lui dit, non, mais ça t'intéresserait pas de sortir un peu du périph, je sais pas, aller à, par exemple, Montreuil, quoi. Alors que tu sens que c'est la première fois de sa vie qu'il y a mis les pieds.
Mais c'est ouf parce que c'est génial, tu vois vraiment, et en vrai, tu te vois, et malheureusement, je le reconnais un petit peu, dans ce mec complètement, c'est très sûr de ses principes, tout ça, et qui va agrémenter son discours de la seule expérience qu'il a vécue.
Et surtout, en général, c'est l'expérience la plus récente qui soit.
Oui, oui,
il faut que ça soit une expérience qui date de trois derniers jours. C'est comme si quand tu te mets à regarder un film un peu intelligent, genre t'as vu un film polonais des années 40 en noir et blanc, tu vas commencer à dire à tes potes
non, oui. Non, non, pas de film polonais des années 40, il faut pas regarder ça, Gaspard. Bon. Bientôt, nous allons pouvoir purger.
Alors, un film rwandais des années 90.
Non, 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 non. Bon, t'as qu'à faire un film ukrainien des années 2010, là, c'est
oui,
bien.
C'est très bien, voilà.
Ouais, là, en ce moment,
où j'avais un film croate des années 80. Non, 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 non. Bon, bah, regardez pas de film.
Alors, voilà, il vaut mieux
non,
pas.
Mais, et après, t'arrêtes pas de te la péter en mode genre, ouais, bah, moi, j'aime beaucoup ce cinéaste. Voilà.
Voilà. Mais du coup, voilà, lui, il agrémente un peu son histoire comme ça. Il rentre dans sa chambre, il se tape une queue en pensant à Salima.
Oui.
Alors, il est dans une
chambre.
Est-ce que tu peux expliquer
à les plus jeunes auditeurs ce que veut dire se taper une queue?
Alors, se taper.
C'est pas préparer une queue de castor.
Les enfants.
Vous parce êtes là, bien sur les maternelles, sur France 5.
Non, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle dans mon journal, on est d'accord.
Ah bah oui, oui,
est-ce
oui
que,
bien sûr.
Est-ce que j'ai besoin de lui réexpliquer comment on fait à mon journal?
C'est ça.
Il le sait déjà, il a les pages collées.
Non, il commence du coup à pratiquer de l'onanisme.
Oh, très bien.
Face à rien, en fait, dans sa chambre. Mais en revanche, on découvre rapidement qu'il n'est pas seul dans sa chambre.
Il est avec son frère.
Son frère, qui lui dit en gros, bon bah j'ai compris que ce soir t'allais être poigné, c'est pas la première fois, juste fais un peu moins de bruit, j'essaie de dormir.
Voilà.
Toi le petit célibataire, le mal rasé, le hérisson, le vieux loup solitaire, l'éternel, le vieux garçon, qui lave tout seul ses chaussettes, ses slips et ses caleçons, toi le champion de la...
Une nouvelle page de journal nous apprend que, contrairement à ce qu'il disait tout à l'heure, Michel se dit que finalement ce journal pourrait bien devenir une œuvre littéraire. Hein.
Mais il fantasme cette idée que vraiment quelqu'un tombe dessus.
En fait, c'est
génial
parce que
l'excite, quoi.
C'est très vrai le côté de j'écris ça, mais c'est de la merde, mais en même temps, j'ai envie que ce soit bon pour que quelqu'un tombe dessus. Quoi.
Et surtout, ça reviendra peut-être plus tard, à un moment où il va se lancer dans une activité artistique. À moi, genre, je fais ça un peu en regardant à peine. Mais pour les autres, ce fait que moi je le fasse.
Avec détachement.
Avec détachement, en fait, je suis en train de faire un chef-d'œuvre.
Voilà.
Parce qu'au fond, je suis un grand artiste.
Mais la vie est tellement, tellement simple, finalement.
Ouais, oui, comme dirait Mélanie Laurent, tout est si simple.
Tout est si simple. Merci, Mélanie. Et dans ce journal, il raconte aussi comment est-ce qu'il se verrait bien aider Salima à sortir de sa misère, notamment culturelle, et comment il pourrait même aider tout Montreuil en ce sens.
Ça, c'est d'une violence. Et c'est là, en fait, où on voit en fait, le profond mépris que porte le perso pour toute cette classe-là, où il commence à dire « mais il faut que je les éduque ».
Bah, ils ont besoin, quoi.
Mais c'est ça, il faut que je leur apprenne la culture, parce que sans la culture, ils ne seront rien. Et c'est là
et
où...
Moi, je détiens la culture,
c'est
la
vraie. C'est ça. Et en fait, à aucun moment, lui, il fait le rapprochement en disant « Je suis un petit bourgeois qui pense aller coloniser éduquer la masse, quoi. » C'est très, très violent. Et sauf que c'est l'idéologie... de Jack Lang dans les années 80 quand il dit qu'il faut démocratiser la culture, quoi.
En fait, c'est hyper marrant parce que c'est vraiment les idées socialistes, enfin les idées d'un futur socialiste né dans les années 70.
Bah, je crois pas qu'on l'ait dit, mais c'est une BD qui date de 83.
Ouais.
Donc en plus on est très récent dans l'époque de Tonton, quoi.
Oui.
C'est juste avant,
ça a dû sortir juste avant le tournant de la rigueur.
Mais voilà, c'est ça.
Donc on y croyait encore, tu vois.
Tu sais, au moment où le Parti Socialiste te prend dans les bras avant de te faire « Shazam !»
Et en fait,
pas de smic. Socialiste, privatisation.
You wanted SNCF, and no more. Now you have Bundestag. C'est
ça. Mais, take your yellow vest hein, and you gonna complain.
Voilà, merde. Il emmène Salima donc au cinéma après l'avoir récupérée dans un bar à Montreuil. Il essaie de commencer à lui faire un programme de culture en lui disant t'aimes bien le dernier Wells ou
t'as
Godard.
Vu Citizen Kane, tu veux que je te montre Citizen Kane?
Oui.
Ah oui, alors en parlant de Godard, parce qu'après il y aura une page plus loin, parce que je pense qu'on va pas passer dessus, où il explique qu'il l'a emmené voir du Godard.
Qu'elle n'a pas aimé.
Au bout de 15 minutes, elle s'est barrée.
En disant trop que c'était vraiment un con.
Que Jean-Claude Godard, c'est vraiment un enculé. Ça, je trouve ça très marrant.
Il se fait vraiment écraser de A à Z sur tout ce qu'il dit.
Mais elle peut pas le blairer, en fait. C'est ça qui est drôle.
En fait, elle le blaire pas. Et à tel point qu'en sortant du cinéma.
Comme ma meuf. Pardon.
Désolé, Gaspard.
C'est pas grave.
à tel point qu'en sortant du cinéma, elle lui dit, bon, elle est pas bête, elle a compris, elle dit, bon, tu veux qu'on nique?
Oui.
Oh, ça le prend un peu à dépourvu.
Et là, ce qui prend encore plus à dépourvu.
Ouais, t'as 200 balles. Ouais, parce que Salima, elle est pas bête. Hein.
Oui, et elle lui dit que ça, elle préfère le faire payer 200 balles plutôt que de s'en faire 2 à 100 balles après.
C'est ça, c'est quand même, c'est beau quand même. Ouais,
c'est ça l'économie.
Franchement, Salima, entrepreneuse, Macron serait fier de toi.
Je suis auto-entrepreneuse. T'imagines, tu déclares ta boîte d'auto-entrepreneur. Bah, le tapin, pourquoi?
Mais alors, tu sais, j'ai appris que c'est aux États-Unis, pour le coup, t'as une catégorie ARS qui te permet de déclarer les gains illégaux. Donc, tout ce qui est prostitution, drogue, vente d'armes illégales, tout ce que tu veux, tu peux les déclarer. Sauf
et
que
tu payes des impôts dessus, du coup.
Tu payes des impôts dessus, et après, bah. Ils te dénoncent. Après,
c'est très, très con.
Mais je trouve ça à mourir de rire. Les mecs ont vraiment pour
je vois trop le truc, quoi. Trop le criminel. Genre, bon, on va. Tu sais, après.
Qu'est-ce
après,
que tu mets dans
à la fin de sa première année qui va commencer à, qui avec son comptable qui dit bon, bah, du coup, on va déclarer ça. Et écoutez, monsieur Pablo, est-ce qu'on parle, c'est peut-être pas une bonne idée et tout. Alors,
ouais.
Hey,
tu sais pourquoi.
On fait du crime,
mais on fait bien.
Moi, l'administration fiscale, je la respecte.
Tu sais pourquoi il est tombé Scarface, comment il s'appelait, le mec de Chicago, là. Le plus grand des gangsters,
ah, bah,
qui était surnommé
Al Capone.
Al Capone, qui est surnommé Scarface, il est tombé pour fraude fiscale.
Mais exactement.
Et ben, moi non.
Ben, c'est ça.
Voilà. Mais, moi ça sera carré, monsieur.
C'est tout à fait vrai. Mais surtout, tu vois ton mec qui s'énerve. Et la sécurité sociale, qui c'est qui veut le payer?
Mais attends, si on déclare pas mon petit Pablo qui s'occupe de faire le chouf pour mes trafics de drogue, il aura pas de pas de retraite préparée.
Et moi je tiens à lui.
Et moi je tiens à lui. C'est.
Je veux qu'il fasse le chouf pendant 60 ans.
Voilà, putain, c'est beau quoi. Du coup, il rentre chez lui un peu déçu de sa soirée avec Salima, non sans lui avoir donné son numéro. On sent qu'elle en a rien à branler de lui.
Oui, bon. Surtout qu'enfin, elle chope son numéro alors qu'elle est en boîte, entourée de mecs.
En train de draguer d'autres mecs, ouvertement. Mais voilà, il rentre chez lui, il s'engueule avec sa famille copieusement, parce qu'il les déteste, et décide du coup, puisqu'il les déteste tant, de se réfugier chez René.
Alors, c'est qui René?
Ah bah René, c'est un peu différent. René, ça, c'est une famille qui est beaucoup plus cool. Parce que René, en fait, c'est des, bah, c'est des gitans, quoi. C'est des vieux charclos, des putains de babos. Non, ils sont
c'est
un peu...
C'est une famille d'anciens 68-ards.
Voilà, un peu très baba cool. On découvre plusieurs personnages. Donc René, le meilleur ami de Michel, tout malingre, très moche.
Oui.
Et deux sœurs de René... Déjà Claudine, 14
Claudine,
ans,
qui est
gaulée, mais...
Angèle, c'est
ah oui,
Angèle, je me suis dit, putain, c'est Angèle, c'est la même.
J'avais pas du tout capté, mais donc tu dis oui.
Mais moi, je pense jamais à Angèle, déjà, c'est
jamais.
Un principe, et le fait...
Je vois pas de qui tu parles, tu me fais penser à cette personne que je connais pas,
ouais.
C'est fou.
Et non, ouais, faut imaginer, c'est elle, en fait.
Ouais, c'est, j'avoue que c'est ouais. Carrément ça,
mais elle
avec,
a 14
des,
ans.
Avec des tchouches énormes, pour le coup. Oui. Donc en plus, elle est gaulée comme un avant de chasse, et Roland, Roland, c'est pas pareil.
Sauf que Roland, elle est brillante, contrairement à Claudine.
Oui, parce que Claudine a 14 ans aussi.
Oui, et un peu con. Et on nous fait comprendre qu'elle
n'est pas 14 ans,
elle n'a pas fuite. Alors que Roland, elle est brillante et elle a
elle
une
a
passion.
L'âge de Michel.
Elle a une passion pour la culture et
elle est passionnée pour la culture de manière générale.
Elle est très
culture douce. À 2000 d'ailleurs.
Oui.
Elle a tous les chèques, Cadeos, tout ce que tu veux.
Et mais surtout, elle est très douce. On sent que c'est vraiment c'est une gentille.
Oui, elle c'est une gentille pour le coup. Mais il y a aussi d'autres personnes. Il y a la mère Maryse qui trime dans un petit job de merde pour rapporter la thune, pendant que René, qui est le beau-père.
Il y a deux René du coup.
Non, pardon, il s'appelle Eric. Lui est un énorme ex-68-ard qui fume des gros winges, qui
surtout,
fait des recherches artistiques.
Complètement dégardé et qui a la barbe de Robert Rue.
Oui, exactement. En fait, c'est Robert Rue. Putain, c'est Robert Rue qui
Robert
vit avec, Angèle.
Et qui est le beau-père d'Angèle.
C'est ça.
Vous imaginez le chaos qui s'est
développé. Ever dreamed of a crossover like this?
C'est Avengers Infinity War is the most
ambitious crossover ever.
Crossover. Robert Rue, Angèle.
Qu'est-ce qu'ils auraient à se dire en vrai? En vrai, si t'avais Robert Rue et Angèle qui se rencontraient, qu'est-ce qu'ils se diraient?
Je sais pas, je sais que, à mon avis, Robert Rue, il a pas l'air méchant.
Non, il est
et Angèle, elle est belge et elle boit de la bière.
Oui.
Forcément, il y a un truc qui match.
Oui, c'est vrai.
Donc,
ça pourrait être un très beau couple en vrai.
En vrai, tu sais, c'est comme les fameuses questions à la con, genre, tu sais, si tu devais inviter trois personnalités à dîner, bah moi je mettrais Robert Rue, Angèle.
Et la troisième, vas-y.
Et toi?
Oh putain.
Parce que t'es. T'es mon pote, quoi.
Chers auditeurs, il se passe quelque chose ce soir.
Mais peut-être qu'on peut continuer, on parlera de ça
on
après.
On peut venir après. Donc là, il vit le full trip babos. Ils font une veillée, comme les paysans.
Ils ont pas la télé.
Ils ont pas la télé. Ils font la veillée. Et alors, bon, là, la veillée, elle dérape un peu. Il se passe quoi?
Alors oui, alors, comme chez tous nos copains babos, une fois que les enfants vont se coucher, Michel, lui, il est pas fatigué, donc il reste. Et,
avec la maman et le beau-père.
Exactement. Et donc le beau-papa commence à fricoter avec la belle-maman, et puis il commence à inviter Michel à venir fricoter avec la maman parce que ça a l'air de l'exciter un petit peu.
Bah oui, c'est ça, quoi. Alors Michel, il est légèrement... Il y a un certain malaise à ce moment-là, pour le coup.
Ce qu'on nous laisse sous-entendre quand même depuis le début, c'est que Michel est totalement puceau.
Est-ce que ce serait le problème dont il parle? Nous le verrons plus tard.
mais du coup, il est très très gêné. Il est très gêné, mais c'est ça hurlait de rire en fait, parce que. Enfin, je sais pas. Il y a une manière de dépeindre du coup en fait le cliché de la famille bobo artiste, parce que faut savoir que le père est peintre.
Oui, mais alors peintre en plus, c'est génial. C'est marrant quand tu peins, t'as des mouvements de paysan, t'as des gestes de paysan.
Wow. En fait, il dit, il a envie de revenir à quelque chose de primaire,
oui,
et de comprendre ensuite une fois qu'il a peint ce qu'il a essayé de peindre. Et on comprend qu'il fait n'importe quoi.
Il fait de la merde. C'est un vieil artiste qui peut payer sa femme qui va travailler pour lui donner de l'argent.
Exactement ça. Et à un moment, on nous laisse même sous-entendre qu'ils ont pas la télé, mais à un moment, un truc, il nous fait comprendre qu'en fait, ils peuvent même pas se la payer.
Mais c'est ça, quoi.
Non, c'est d'une violence. Alors, on s'est tapé les bourgeois avant, avec la famille de Michel. Là, les bobos.
Wannabe bobos,
les wannabe bobos. Vrais bobos, en fait.
Oui,
c'est très, très violent.
Mais ça
sauf
fait
Roland,
du bien, hein.
Sauf Roland, finalement, qui, oui, au-delà de son physique de camionneur.
En fait, oui, clairement. C'est,
Et vraiment une fille douce et
en
brillante.
En fait, c'est Christine Boutin avec une coupe un peu plus courte, quoi.
Ouais, c'est un peu ça.
Physiquement.
Christine Boutin qui est devenue avant-centre du 15 de France, quoi.
Puis qui a eu une révélation, elle se dit « Putain, mais en fait, je déteste pas les gens issus de la PMA. Faut les aider. » Bon, bref, il rentre chez lui après 2 jours passés chez la famille de René. Il s'engueule et on se rend compte que la mère a parlé au père, parce que le papa, qui était un peu une figure opposée à Michel, il essaie d'être gentil avec lui. Il finit par lui lâcher les clés d'une chambre de bonne.
Oui.
Donc, Michel va pouvoir vivre tranquillement un petit peu son...
Et ça devient trop, parce que d'un coup, le père, il commence à faire des efforts, mais genre exagérés pour,
oui,
devenir...
Mais c'est comme
fils.
Quand ton père, quand ta mère l'avait engueulé après qu'il soit hyper dur avec toi.
Sauf après la baffe où je l'avais traité d'enculé.
Oui, c'est vrai que t'as pris une baffe, parce que t'as traité ton père d'enculé, qui était mérité, celle-là.
Celle-là, je l'ai cherché, il a pas essayé de se calmer.
Après, il a pas dit pardon.
Mais tu sais, c'est genre... Il fait des efforts un peu nuls, genre « j'ai fait ton lit ».
Oui, c'est ça.
Genre « pourquoi t'as fait mon lit ?»
Mais surtout derrière, il reste insupportable, Michel. « Putain, papa, mais j'aime pas qu'on fasse mon lit !»
Alors, mais en fait, dès qu'il voit les efforts de son père, oui, il reconnaît là, en fait, la soumission d'un homme capitalisto, oui, aux règles. Enfin, c'est... Michel, t'as envie de lui en coller une, quoi, depuis le début.
Je pense que c'est ce qu'il lui mériterait. Mais on va voir que sa vie, elle va être un petit peu chamboulée, puisque... Maintenant qu'il a sa chambre de bonne, Salima l'appelle et Salima, oui, elle a des emmerdes parce que, en gros, le beau-père de Salima a essayé de se la taper. Elle lui a planté un petit couteau dans les couilles, ça l'a calmé. Mais du coup, elle est recherchée par les keufs, donc elle a
c'est
besoin
cool,
de se planquer
parce qu'en
chez
fait, c'est
Michel.
C'est un arc narratif du clodo là,
oui,
qu'on n'a pas. Alors qu'en fait, il est vachement intéressant.
Il est vachement bien. Il y a de l'action,
oui, oui,
il y a de l'amour. Moi, je veux savoir pourquoi il est avec cette femme depuis le début.
Finalement, c'est à lui qu'il se passe le plus de trucs, si tu veux, parce que il a se peinté la gueule dans les bars, il est ramené par un inconnu, sa fille le plante. Le mec de sa fille est en tôle. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Et finalement, on suit Michel.
Pochtron. Petit The beginning.
Petit, oui, c'est ça. Pochtron begins.
Pochtron begins. No one cared who I was before I started to take the 16.
C'est ça.
De 8-6.
Before I take the 8-6.
Et donc, Salima vient vivre chez lui. Et on comprend par une nouvelle page de journal que le problème de Michel ne s'est pas toujours résolu. Wink, wink. On verra ce que c'est plus tard. Et que malgré des tentatives d'éduquer Salima au ciné de Godard, elle a, comme tu l'as si bien souligné tout à l'heure, dit que ce dernier est un pauvre connard.
C'est ça.
Donc, elle n'est pas très réceptive à l'éducation culturelle.
C'est ça. Ils sont allés voir un film de Godard. Et au bout des 2 premières minutes, elle commençait un peu à râler. Au bout de 10 minutes, elle commençait vraiment à plus en pouvoir. Et au bout de 15 minutes, elle est partie en crachant sur l'écran.
Et lui, il trouve ça formidable.
Ah bah,
c'est
ah
superbe.
Ouais.
C'est
merveilleux.
Oui.
C'est merveilleux. C'est la réaction du mec face au poussé un peu réactionnaire de Salima. Ça me... Oh, tu es merveilleuse.
Franchement,
en fait, tu as une réaction brute. Et finalement, en fait, il va même présenter Salima à la famille de Bobo.
Oui, on verra ça juste un petit peu après. En gros, comment ça se passe maintenant? Ils vivent ensemble? Est-ce que c'est un peu l'idylle que se voyait Michel?
Absolument pas. En fait, on découvre qu'ils ont un train de vie assez, chaque jour, c'est la même chose. Donc, chaque jour, ils se lèvent à 15h. Lui, il fantasme absolument sur elle. Ils dorment pas dans le même lit.
Bah non.
Lui, il dort sur le sommier. Elle dort sur le matelas. Et il se dit chaque jour, ce soir, je me la fais. Enfin, c'est même pas ce soir.
Oui.
C'est ce soir, Michel, tu te la tapes.
Tu le fais, Michel.
Ce soir, agis. Michel, tu lui mets sa cartouche.
Sinon, tu es une grosse merde.
C'est ça.
Et un jour, juste, il décharge dans son froc, il en peut plus. Je suis désolé, c'est l'image. Je croyais que c'était ce soir.
C'est d'une violence. Il faut imaginer. Rappelez-vous vos pires friendzones de lycée, de fac. Et bah lui, il est fou amoureux d'elle, elle peut pas le blairer, on sent. Ça qui est horrible, c'est que nous, on voit clairement qu'elle profite de lui.
Bah ouais.
Et lui, persuadé d'être au-dessus d'elle, se dit qu'en fait, il est en train de réaliser un acte de générosité extraordinaire.
Extraordinaire, cet homme.
Et en fait, il est mené par
le bout de la pine.
Le bout du nez.
Voilà. Et alors, Salima, elle se taupe d'autres gens. Elle l'entraîne dans des combines un petit peu, dans la drogue et ouais, tout ça, dans le vol d'autoradio.
Elle l'emmène en boîte et elle repart avec d'autres mecs. Enfin.
Oui, voilà. Mais de toute façon, lui, il a pas son mot à dire puisqu'il ose pas. Parce qu'il est un peu trop faible.
Elle lui fait cracher de la thune.
Voilà, et lui, quand elle découche, il est d'ailleurs tellement énervé qu'il écrit sur son journal des trucs du genre, je cite, « Vierge pure au flanc bafoué, éternellement sacrifiée sur les autels phalliques des égoïsmes masculins, Brejnev, Reagan, je vous hais !» Et le lendemain, il relit ses trucs, il fait « C'est pas mal ça, c'est pas mal ce que j'écris !»
Le mec s'aime en artiste entre guillemets torturé quoi. C'est un peu comme nous qui nous rêvons en grand animateur radio quoi.
Ouais, mais un peu ça. Vous nous aimez vous qui nous écoutez.
N'est-ce pas maman qui
c'est
m'écoute.
Pas, c'est ça. C'est pas
spécial casse dédié à ma mère là, qui nous écoute
et
en ce moment.
À ta tante hein, bah oui.
Oui bah on vous embrasse.
C'est pas que grâce aux Québécois qu'on a de l'audience. C'est pas que des
pas
gens
du tout. Est-ce qu'on peut en parler tout de suite de
oui,
cette
alors,
émission québécoise?
Disons.
Alors on aimerait dire à tous les nos auditeurs d'Outre-Québec.
D'Outre-Québec, littéralement. On peut la faire.
On n'est pas l'émission que vous pensez.
Bah oui.
qu'on est.
Spoiler alert, il y a une autre émission qui s'appelle L'heure est grave.
Spoiler alert, on avait le nom avant.
Oui. Donc, alors voilà.
Alors on a été sympa. On aurait pu pousser une gueulante.
Ouais. On
l'a pas
dit.
Fait. On l'a pas fait parce qu'on est sympa. On est pour une libre commercialisation des noms.
Et puis parce que ça nous ramène de l'auditoire.
pas du tout. Je pense qu'à mon avis, c'est plutôt nous qui les aidons.
À chaque fois qu'ils font un post, ils nous taguent dedans, pensant se taguer eux-mêmes.
mais en tout cas, je tiens à saluer nos amis d'Outre-Québec et leur dire qu'ils sont bienvenus et dès qu'ils sont de passage dans l'Hexagone, on serait ravis de les recevoir sur nos ondes.
Mais ceux qui sont moins bienvenus, c'est Michel dans sa famille, puisque à chaque fois qu'il y retourne, ça part en engueulade. Il y va que pour demander de l'argent de plus. On comprend que du coup, il vit un peu sa petite vie avec Salima, c'est très frustrant pour lui. Il essaye, comme tu le disais, Gaspard, tout à l'heure, de l'emmener dans la famille de René. Et alors,
ça hurlait de rire.
Ça mourait de rire.
Parce que du coup, René présente ses croûtes.
Eric présente ses croûtes.
Eric, à Salima. Et elle est en mode genre, c'est horrible, mais un gamin de 4 ans pourrait faire la même chose. Et Eric est en mode genre, elle est merveilleuse.
Extraordinaire.
Vois-tu,
j'ai chié sur cette peinture. C'est censé exprimer le désarroi de l'homme moderne face
ça,
à
ça. C'est une bouteille de mercurochrome à laquelle je n'ai pas touché. Mm-hmm. Je la vends 10 000 euros.
Voilà. Ça t'intéresse. Non, mais. Alors Salima, pour le coup, elle vient
C'est là où parfois je me dis, putain, en fait, j'aurais besoin d'un petit Riyad Satouf pour m'écrire l'accent, en fait. Oui. Parce qu'il nous fait comprendre qu'il y a un accent, mais on n'arrive pas à le lire.
Moi, je dirais que c'est plus un accent banlieue.
Ah oui, clairement, ouais, oui.
Eh, vous êtes des bouffons.
Eh, Crary, t'as cru quoi, là
c'est de la merde. Elle dit, d'ailleurs, après le dîner avec tous ces bobos, eh, c'est des débiles, tes potes. C'est des débiles mentaux.
Qui répondent juste, elle est merveilleuse.
Elle est merveilleuse, c'est extraordinaire. Tu sais, j'ai l'impression que il la prend avec des pincettes un peu comme tu prendrais, tu sais, le Georges, le fils du couple royal. Tu sais, que dès qu'il fait de la merde, lui, il est intouchable, oui. Hein.
Ah bah,
c'est extraordinaire, il a chié dans le vase. Hein, c'est
super. Mais c'est comme n'importe quel nouveau-né, tes copains qui te demandent des photos des enfants en mode genre, et regarde, là, il s'est mis des crayons dans le nez.
Voilà.
Oh,
qu'il est fort, il est intelligent pour son âge.
Il est pas un peu triso,
il a poussé un peu loin le crayon là quand même. Ça va peut-être avoir des dégâts.
Vous avez compté les chromosomes ou je sais pas, non.
Et 15 ans après, on a un leader des gilets jaunes. Je dénonce. Mais ça va se complexifier un petit peu pour ce cher Michel et sa pseudo-relation qu'il veut avoir avec Salima, puisque après avoir tenté d'y aller avec Salima.
Ah oui.
Il jouit trop vite en fait. Ouais. Il essaye
c'est,
de.
C'est assez minable parce qu'il commence à lui dire j'aimerais bien qu'on fasse le truc quoi.
Là il porte ses couilles quand même en disant viens on fait l'amour quoi.
Ouais. Alors c'est pas ça, c'est qu'en fait il tente une sorte de coup genre un peu genre Naked Man How I Met.
Ouais.
Ouais. Il commence à dire écoute je vais me mettre dans le matelas par terre. Du coup elle va me voir dans son lit et elle va être obligée de sauter sur moi.
Et
ce sur quoi elle répond.
Elle va se mettre sur
je dans le sommier.
Ah tu veux que je prenne le sommier, pas de problème. Et après il y a ce moment un peu gênant de toi ta première fois qui est ça va. T'as pas chaud, c'est tous les deux, on est un peu gênés par la nudité.
Surtout que nous, on comprend qu'elle, elle est rodée depuis longtemps.
Oui, elle s'en fout.
Et lui, il a aucune idée de ce qu'il faut faire.
Est-ce que le problème, ça serait pas finalement son problème de pucelage, déjà?
Ah bah, on comprend que finalement, c'est un peu le nerf de la guerre pour lui. C'est que.
Et du coup, est-ce que si ce problème avait été résolu depuis longtemps, est-ce qu'il serait pas un peu moins casse-couille?
Mais on
verra ça.
J'aimerais tout de suite faire un appel à nos auditeurs, qui, je sais pas quel âge ils ont. On a envie de dire, si vous n'avez pas été dépucelé à moins de 16 ans,
ah oui,
arrêtez de nous écouter.
Arrêtez, on arrêtez, a déjà dit
on,
ça.
On parle que aux beaux gosses, nous.
Oui, exactement. Et en parlant de beaux gosses, il va en débarquer un dans la vie de Sally Mae Michel, puisqu'elle lui apprend, après cette tentative de coït ratée, que son mec sort de tôle bientôt et qu'il a besoin d'un appart ou crêcher.
Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants.
Nouvelle page de journal où on apprend que depuis que le mec de Salima vit avec Michel et Salima dans la chambre de bonne de Michel, c'est pas comme avant, quoi. Hein.
C'est ce qu'on appelle une nuisance.
il est légèrement nuisant, puisque comment est-ce qu'il appelle Michel ?
Couille molle.
Et Michel dit, ça ne me plaît pas. Je devrais y mettre fin, par la violence s'il le faut.
Je pense que si on avait décidé de produire un film adapté de Souvenir d'un jeune homme en 2010... Ce serait Gilles Lelouch qui aurait joué
Jeannot.
Le mec.
Oui, c'est pas faux.
Couille molle.
Fais pas chier, madame.
Mais touche le cul, bah tu peux pas, t'as une couille molle, blablabla.
Et tu sais, qui est hyper oppressant parce que il arrête pas de dire, bah vas-y, elle touche le cul de ma femme. Qu'est-ce que tu fais chier, putain, on rigole.
Mais en fait, il est génial parce qu'il est. Ouais, c'est Gilles Lelouch, quoi. Il est hyper relou. Et tu sais que. Alors, Michel.
Mais il est un peu beau gosse. C'est
il
ça qui est normal.
Il sort de prison, c'est le danger, tu vois. Salima, on comprend pourquoi elle kiffe. Et en fait, la vie change pas beaucoup puisque lui, Michel continue de les suivre en fait dans leur soirée de débauche, soirée au cours duquel, je vais y arriver.
Desquelles
Jeannot lui propose notamment de toucher les uns de sa meuf et Michel.
Sans que Salima ne réagisse.
Oui, d'ailleurs. Ça. Non, Salima, elle fait oh arrête, t'es con. C'est genre oh, arrête d'embêter le gosse, tu vois bien. Que...
Vas-y, touche-les maintenant que t'es proche.
Michel, lui, il semble se détester maintenant. Hein. Il se voit comme une larve humaine. Il ne trouve le réconfort que dans ses plaintes au sujet des opprimés, notamment les Palestiniens.
Oui, parce qu'en fait, on est dans les années 80 et on apprend que c'est la merde. Comme
aujourd'hui.
Oui, ça, mais comment résumer la situation ? C'est la merde
au Moyen-Orient
entre Israël et le Liban, puisque bon, on comprend que Israël est en train de bombarder Beyrouth, et il y en a un que ça offusque plus que n'importe quoi, c'est Michel. Michel qui se dit qu'il faut manifester pour ses frères libanais. Et d'ailleurs, tu vois, en plus, c'est vraiment une critique à la limite de la limite, c'est que, genre, pour défendre ses frères libanais, juste le mec. Il va dans la rue soulever des pancartes.
Mais c'est hyper drôle parce que le moment où ils dessinent, enfin où ils sont dans le, en train de manifester.
Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des dessins.
On n'a pas beaucoup parlé des dessins, ouais. Voilà, je voulais en parler. Merci Gaspard.
Je t'en prie.
C'est qu'on est à nouveau, vous avez compris qu'on a une ligne éditoriale dans le Régrave. On parle.
Et c'est des émissions qui sont travaillées. Hein.
Ah, attention, hein.
On n'improvise pas du tout là.
Jamais. Jamais. Les blagues, toutes les blagues sont écrites. Oui. Même cet accent, il est marqué. Oui. Tu vois, c'est écrit.
Suivre accent. La respiration du nez importante.
Et donc, c'est la ligne claire. Et oui, vous l'avez retrouvée. Elle est de nouveau là. On est à nouveau dans un dessin de ligne claire. Quelques traits pour exprimer des idées. Et là, ce que je trouve très marrant dans ce dessin, c'est qu'en fait, tous les mecs qui manifestent ont la même gueule de bobo. C'est tous les mêmes
petits... Ah, je sais pas, il y en a un qui a la tête d'Eric.
Bah, parce que c'est Eric.
Ah, ouais. Mais... C'est marrant, dans Titeuf, il y a toujours un mec qui a la tête de Titeuf.
J'adore la BD. Mais les gens se ressemblent beaucoup.
Donc, il manifeste avec Eric. Oui, non, mais surtout, on le voit, lui. Et puis, en plus, c'est découpé un peu comme des manifestations où ils sont tous parallèles. Enfin, on a l'impression de voir des trucs soviétiques.
Ils ont la même idée débile et lui se réconforte dans la masse et tout ça. Il trouve que c'est formidable.
Et plutôt que de le dire haut et fort, on le voit penser. C'est merveilleux cette masse prolétaire qui défile à l'unisson. Un seul cœur qui bat.
Mais oui, pour défendre, je cite, ses amis libanais prêts à mourir pour la liberté. Qui eux sont sa vraie famille. Parce qu'il le dit à sa mère quand même. C'est eux ma vraie famille. Ben oui, c'est pas vous, bande de bourgeois qui vivez dans votre 16e ou votre 5e, bande de couilles molles. Mais parlant de couilles molles, on va parler de son papa, puisque son papa lui essaye de recréer un peu des liens.
Voilà. De recréer du lien.
Alors comment ils vont faire pour recréer du lien ?
Son père commence à lui dire, on comprend que ça fait plusieurs temps qu'il lui dit, il faut qu'on se refasse une soirée entre mecs.
Voilà, parce que t'as grandi et
ouais, c'est ça.
il faut qu'on aille boire ensemble.
Il profite d'une occasion où il n'y a plus personne à Paris ce week-end-là pour l'emmener passer une soirée ensemble. Et il l'emmène dans ce qu'on comprend être la pizzeria de leur enfance.
Ouais.
Pour passer un moment entre père et fils.
C'est beau.
Oui, c'est très très beau. Sauf que Et c'est ça où on voit que Michel...
Moi, je suis jamais retourné dans la pizza à mon enfance.
Mais ton père est mort depuis 19 ans maintenant.
Non, c'est parce que le cuisinier, il est parti en Syrie.
Excuse-moi.
Faire des pizzas.
J'ai oublié qu'on pouvait faire des blagues sur la mort de ton père. Oui. Mais tout ça pour dire que...
Mais pas sur mon pizza, pas sur mon pizzaïolo qui est passé chez Daesh.
Ça, on rigole pas, merde. Mais du coup, le père l'invite au restaurant et il commence à lui dire « sors, on fait la fête ». Il enchaîne les bouteilles et il commence en fait à être le seul à parler pendant que Michel se plaint dans sa tête, quoi.
Et là, c'est... tu sais, on était jeunes, on a tous fait des erreurs. À l'époque, c'était pas une agression sexuelle. C'est et ça. Puis...
C'était comme ça si tu voulais travailler dans le cinéma.
Si tu vas apparaître dans une BD, fallait faire comme ça à l'époque. C'est maintenant, tu ça. Peux juste avec tes pensées. Mais moi, j'ai dû trimer pour où j'en suis, mon gars.
Mais surtout, il commence à dire à son fils, tu sais, moi, quand j'avais ton âge, je suis tombé fou amoureux d'une
fille. Alors, il y a des cases à cocher, vas-y.
J'écrivais un journal.
La fille, le journal.
Je me pensais pour un grand poète.
Révolutionnaire.
Exactement. Voilà. Et j'ai fini par faire une tentative de suicide quand elle m'a largué.
Ça, c'est spoiler alert, c'est ce qu'on appelle un flash.
Un flash forward.
Un flash forward, exactement.
Mais surtout, le mieux, c'est que pendant qu'il commence à dire à son fils, tu sais, moi j'écrivais un journal en pensant être un grand écrivain, tu vois ce connard de Michel qui est en train de voir son père en mode genre, ça doit être de la grande poésie, putain, ton journal.
Pathétique. Alors que je vous relis hein, ce qu'il avait mis à une époque dans son journal. Vierge pure au flanc bafoué, éternellement sacrifiée sur les autels phalliques des égoïsmes masculins, Brejnev Reagan, je vous hais.
Alors que son père, ça devait être de la vraie connerie comparé
oui,
à ça.
Oui, aussi, mais dans les années 40, exactement. Ça finissait par Eichmann de Gaulle, je vous hais.
Tout le monde est dans ma cave, merde.
Débarquent alors des potes du père, qui alors un couple d'amis, qui ont une fille aussi, qui semble avoir l'âge de et qui est plutôt jolie pour le coup.
Ah bah, j'ai pas du tout compris. Ah, c'est une fille.
Oui, c'est une fille.
Ah, pour moi, c'était une meuf, genre de la. Bah, elle a l'air d'avoir 15 ans de plus que lui.
Bon, elle est peut-être un peu plus
jeune.
Elle
le vous voit.
Oui, mais c'est ce qui se fait.
En tout cas, on se retrouve dans le cœur de la bourgeoisie parisienne.
Dans le cœur de la bourgeoisie.
Où on décide d'aller finir la soirée chez Castel.
Ben oui.
Donc, qui est quand même le club de Tata Claque. C'est vraiment. Si un jour, on vous propose. Alerte vos amis parisiens, oui. Une soirée chez Castel égale gros connard.
Et à nos amis d'autres Québec aussi, ça peut leur apprendre un peu la culture parisienne.
Mais alors, nos amis d'autres Québec, on espère que s'ils viennent à Paris, ils passeront la soirée avec nous et pas chez Castel.
Eh ben oui, on vous invite. Si vous venez de Canada, vous êtes les bienvenus. Sauf celui qui nous a envoyé un message pour dire que la meuf de l'heure est grave au Québec avec des jolis seins, je sais plus. C'était très bizarre. Ne refaites jamais ça, s'il vous plaît.
Raph n'est pas une meuf, il a des très beaux seins.
Merci. C'est un problème hormonal. Et du coup, ça part à beaucoup parce que la fille finit par Michel qui continue à se plaindre d'être un parfait connard. Elle finit par dire, écoute mon petit gars, t'es un peu un con quoi, ton père il se met en quatre pour toi, t'es pas trop moche.
Il joue au cynique face à elle en mode genre, ouais, tous ces petits bourgeois qui dansaient en boîte de nuit, et elle lui sort, mais tu sais, tu n'es pas mieux que nous, t'es qu'un
aussi,
petit con prétentieux, nanana. Elle le démonte en trois phrases, on le sent paniquer, il quitte la boîte en courant en disant, il faut pas que tu penses à ce qu'elle a dit,
faut pas que tu penses à ce qu'elle a dit.
Et il est terrifié.
Bah, il est terrifié surtout qu'il arrive à l'appartement et qu'est-ce qu'il découvre ?
Que Salima, elle est partie.
Elle est partie avec le mec qui a écrit quoi sur le miroir.
On a lu ton journal.
Ouais, on s'est bien marré.
On s'est bien marré, putain.
T'es quand même con, hein.
Là, franchement,
alors, qu'il écrit en plus avec une sacrée orthographe.
Ah bah, je sais plus comment il a écrit, mais
il écrit ça avec toutes les fautes possibles et imaginables. Ouais,
c'est là où je me suis dit, putain, en fait, c'est la BD en soi, elle est vraiment bien écrite parce que c'est vraiment. Tu sentais ce désir du mec, donc ce qu'on disait depuis le début, d'être lu. Et au moment où il est enfin lu, tout le monde se fout de sa gueule. Parce que c'est vraiment
putain,
nul.
C'est vrai.
C'est vraiment nul à Yèche, quoi, ce que t'as écrit.
Bah, d'ailleurs, il y a une lettre de Bernard Pivot à côté.
Oui, c'est
qui
ça.
Qui lui dit, oh, t'as accepté pour le Goncourt, tu te fous de ma gueule, oh. Ce serait bien, c'est qu'on l'a envoyé ton journal au Goncourt, ils se sont foutus de ta gueule. Et donc, face à tout ce désarroi, le père de Michel l'a suivi, il est derrière la porte, il tambourine à la porte en disant « Mon fils, laisse-moi t'aider, je t'aime, tu es mon enfant après tout. » Michel refuse de lui ouvrir.
Il est en pleurs.
Et là, on comprend...
Petite ellipse.
Voilà, petite ellipse, grâce à une nouvelle page de journal, on comprend qu'est-ce qu'il a fait.
Il a fait comme son père.
Une 30 TS.
Ans, 30 ans plus tôt, il a fait une petite TS. Il a essayé de mettre fin à ses jours. En avalant ce qu'on apprendrait plus tard, genre 3 Doliprane, en fait.
Ouais, ça. L'infirmier dira, oui, il n'y a même pas de quoi faire un lavage d'estomac.
On l'a juste gardé parce qu'il était énervé.
Il était très énervé.
Et on le voit qu'il se réveille à l'hôpital auprès de sa famille qui est en pleurs. Et surtout auprès
de sa mère.
Et des babos.
Et des babos. La famille, donc Eric, le beau-père, et Maryse, qui sont venus là.
Oui.
Et Eric et Maryse en veulent beaucoup à la famille de Michel, parce que c'est votre faute si vous avez fait ça. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que c'est la famille de René qui va le récupérer, en fait.
face à, face que, à la famille
parce
Michel.
Parce que Michel décide de couper les ponts avec son père. Et donc, il va. Donc, ça brise le cœur de ce pauvre père. D'ailleurs, moi, je me suis senti très mal parce qu'il a essayé le papa. Et ça brise aussi le cœur de sa pauvre mère. On sent que les deux parents, d'ailleurs, s'engueulent dans le fond.
Ce qui me fait rire, c'est qu'on n'a pas le reste de la soirée du père. C'est ivre mort chez Castel.
Putain, oui. Il est où mon fils?
Moi, je vais me taper la meuf là. T'avais envie de te faire mon fils avant?
Oh, c'est la même chose en
c'est
plus.
C'est plus ou moins la même chose. Avec des petites pilules qui aident.
C'est ça.
C'est pour le cœur, pas pour la bite.
Ah, on est à la lumière.
S'il te plaît. Je veux penser à ma femme. J'arrive pas à bander devant elle, mais je suis
tellement triste.
Mon fils ne m'aime pas. Et là, dans la famille de René, il va y avoir une succession un petit peu de révélations, d'épilogue, ouais. Puisque René va avouer ses sentiments à Michel.
Alors, on comprend ensuite que René est homosexuel.
Oui, parce que c'est un homme, du coup, c'est lui...
Oui, non, mais on ne savait pas depuis le début, c'est pas un secret. C'est en fait, René est homo.
Et il aime Michel.
Oui, et il aime Michel, et c'est... Tellement que Michel, il propose à Michel, écoute, ça dérange pas qu'on dorme l'un contre oui. l'autre.
Viens, il lui dit, mets-toi sur le dos,
c'est ça.
Et je me mets sur toi et on voit ce qui se passe, quoi.
Et ce à quoi Michel dit non. Et
spoiler alert, il se met nu sur son dos et ils vont pas faire un Scrabble.
Et l'autre lui répond, écoute, le fait que tu refuses, je trouve que c'est totalement méprisant de ta part envers la communauté génial. Homosexuelle. Et Michel se dit, merde, il a raison.
Mais oui.
Je suis un affreux connard de pas assumer. D'ouvrir
mon cul à mon pote, quoi.
Ouais, c'est ça, mais.
Eh ben, spoiler alert, d'ici 10 ans, ça se passera comme ça, Gaspard. Hein. Avec les sociales du soir. Bah, oui, hein, bah, il faut le dire. Hein.
Bah, ça y est.
T'as vu le dernier YouTube Rewind?
Je vais mon gilet jaune et je vais manifester contre les jeux de blé.
Alors, après René, vient le moment de Claudine.
Oui.
Puisque Claudine, la petite gamine de 14 ans, très très bien gaulée, elle essaye de se farcir.
Faut imaginer Angèle qui débarque.
Voilà
ça. Et alors, avec ma voix à moi.
Mais Angèle, mais sauf qu'elle a 14 ans.
Et donc elle débarque. Elle débarque.
C'est affreux, pardon.
Et elle commence à se jeter sur lui.
Et lui dit bah non, t'as 14
ans. Et elle lui dit je suis fou de toi.
Oui. Il lui dit non, t'as 14 ans, on va pas le faire.
Non.
Puis vient le tour de Roland. Alors Roland, c'est plus cérébral.
Roland, ils font des sorties, ils vont voir le dernier Pasolini. Ouais. Ils s'engueulent sur le dernier Pasolini.
C'est un sous-Pasolini.
Ah oui, c'est ça.
C'est un sous Pasolini qui
parce que à tel moment tel plan
c'est le
on
reprise,
vous renvoie à toutes nos émissions de connards où on parlait cinéma.
Voilà.
Pour vous imaginer un peu ce que
inséré dans les guillemets tout propos de connard qu'on a pu tenir jusque là.
Exactement. Et en fait, ils vont rentrer et ils se retrouvent seuls avec Roland voilà. chez
on sent que, on sent que lui a pas envie.
Mais ah, je sais pas si on sent
non,
qu'il a,
pas,
a
envie.
Pas envie.
Il est stressé mais il a pas envie
Moi je le sens stressé et mais en même temps, je le sens un peu attiré et en fait Roland elle n'attend que ça. Et,
ils saute dessus.
Et ils vont finir par le faire. Sauf que, on va avoir du coup un petit parallèle entre le moment où lui, il avait essayé de faire la chose avec Salima oui. et où il avait dit je t'aime au bout de 3 étreintes. Et là, pareil.
C'est pareil pour Roland.
Roland va lui dire je t'aime, tu es l'homme de ma vie.
Et elle le force à lui dire je t'aime. Lui, il lâche jusqu'au bout, dit je t'aime, mais arrête de me mordre l'oreille.
C'est ça.
Et à ce moment-là, après le Covid, débarque la famille qui disent ah, on s'en doutait, les deux amoureux.
Mais c'est même pas on s'en doutait, c'est genre Claudine qui dit on attend dans le bistrot depuis une heure parce que maman dit qu'il faut vous laisser faire la chose, quoi.
Putain, mais c'est abominable, t'imagines.
C'est une violence.
Ta belle famille qui
sauf
qui
que
débarque.
Qu'est-ce qu'on a appris
terminé.
Encore plus abominable juste avant?
Oui, on a légèrement appris que Eric, donc le beau-père, s'était tapé Claudine de 14 ans et Roland, majeur pour le coup, mais il s'est tapé les deux.
En fait, il dépuçait tout le monde dans la famille.
Et que Marie se laissait faire parce qu'elle l'aimait.
Ouais, exactement.
Et donc, en gros, ça va se terminer sur ce moment de faux amour pour Michel. Et on va terminer sur une dernière lettre de journal, puisqu'en fait...
Je pense que tu vas nous faire un peu de lecture.
Je vais vous faire un peu
on
de lecture.
On se retrouve quelques années plus tard.
Puisque le premier truc qu'il nous dit sur cette nouvelle page de journal, c'est « Je suis tombé par hasard sur ce journal de ma folle jeunesse, selon l'expérience consacrée. » Et l'envie m'est venue, je ne sais trop pourquoi, de renouer le fil interrompu de ses souvenirs. Il blablate sur sa nouvelle vie, on découvre qu'il est maintenant artiste, le pire artiste possible.
Exposant à Beaubourg.
Oui,
un
voilà.
Un dit deux, trois de mes, comment on appelle ça ?
Épouvantails.
Oui, c'est ça, les épouvantails qui sont exposés à Beaubourg.
Et donc voilà, il vit la vie parfaite, il s'est marié avec Roland.
Oui. René s'est suicidé.
Alors René s'est suicidé parce qu'on comprend que du coup il était fou amoureux de lui. Donc René a mis fin à ses jours et là on a... Bah ça termine parce qu'en fait c'est voilà il vit sa vie de bobo jusqu'au bout à Fos-sur-Mer et ça va se terminer par Roland s'est mise très sérieusement à l'écriture. Elle termine pour les frottos de l'étang de Berre dont je suis le décorateur attitré, une pièce de théâtre très forte. Après la nuit viendra le jour dont le pitch est Et là, je cite, « C'est l'histoire d'une jeune fille portugaise autistique qui redevient normale grâce à l'amour d'un délégué syndical CFDT de la Société des Pétroles du Midi. À la fin, ils se marient et décident de consacrer leur existence à la lutte contre le travail intérimaire. » Et là, vraiment, c'est la goutte d'eau, tu sais, le dernier truc le plus bobo possible.
Là c'est très violent. Si on peut revenir à la critique, je trouve ça très drôle, mais je pense que c'est là où la BD... pêche un peu, c'est que vraiment...
C'est la dernière note, quoi.
Ouais, voilà, vous avez compris que qui je taclais, vraiment, je les retacle encore à nouveau.
Il retrouve l'amour grâce à un syndiqué à SFDT,
coup,
quoi.
Ce petit bourgeois qui s'est rêvé prolo toute sa vie finira chez les prolos.
Il finira chez les prolos et il finira en disant quand même, avec le temps, je finis par comprendre de plus en plus mon père.
Mon père, la vie est un combat. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras.
Mon père avait raison.
La vie est un combat.
Et voilà, c'était Souvenir d'un jeune homme de Lozier. C'était très sympa de partager ça avec Gaspard, mes BD d'enfance.
Un grand moment de complicité.
Exactement, c'était beau de faire ça à deux en amoureux, c'est toujours sympathique. Qu'est-ce un dernier mot peut-être dessus, si t'en as pensé ?
Non, bah, je pense que finalement c'est quand même très drôle. Je trouve que ça fait toujours plaisir de foutre un gros taquet. mais même pas forcément à une certaine classe, à tout le monde.
Bah, tout le monde, et y compris à nous au final.
on sent qu'il est très cynique, il aime bien charger la mule. Je pense qu'il le fait peut-être un peu trop et je pense que voilà, sur un tome comme ça d'une cinquantaine de pages, ça fait le taf. Je pense que c'est pas un personnage que j'aimerais retrouver à la longue parce qu'il a finalement rien de sympathique.
Mais alors, son grand prix d'Angoulême, il l'a gagné par la suite de ce...
Mais c'est, il paraît, donc en fait...
10 ans après, il a écrit la suite de
le fait
de ça,
qu'il
en
ait
fait.
Gagné un tel prix et qui est finalement notre maître étalon dans l'Heure Grave me donne finalement peut-être l'envie de lire la suite. Mais après je connaissais pas Lozier, je suis peut-être plus curieux de voir ce qu'il a fait un peu de plus trash entre guillemets, mais sinon c'est une belle découverte, ça restera pas du niveau de Tronché qui oui. fut quand même une sorte de révolution dans ma petite tête, mais Lozier on lui met la moyenne en tout cas.
Ah Lozier il a forcément la moyenne.
Et toi mon petit Rafi Choupinou.
Ah ouais merci parce que là tu vois je ne savais pas comment
relancer sur moi.
Et alors je vais vous parler de mes nouvelles lunettes. Alors moi écoute ça m'a fait très plaisir comme je te disais de redécouvrir un peu ce truc d'enfance que j'avais. De manière générale Lozier je trouve ça hyper sympa, hyper marrant, c'est très années 70-80 donc c'est des références de là-bas, c'est des réflexions aussi de l'époque, ça part de maoïsme.
Ça te rappelle la belle époque de Tonton.
Exactement. Tonton, il est mort maintenant.
Ah, ça.
Mais voilà, après l'histoire est très marrante. Moi, je trouve que c'est très marrant de taper sur tout le monde, y compris sur nous un petit peu, parce que bon, on a bon dos à faire des podcasts, mais on reste des connards.
Non, parce que nous, on compte pas. Nous, on est des vrais mecs.
Oui, oui, parce que nous, on est
qui pensons à l'autrui
et on est des vrais artistes. Voilà.
Ouais, nous, c'est ça. Nous, voilà. Y a ça. Nous, on n'a pas le cynisme de se prétendre de la masse du peuple. Nous, on est le peuple.
Alors que les autres podcasts. Pardon, quoi. Ouais. D'où vous vous permettez ?
Alors, affaire sensible.
Excuse-moi, Fabrice.
Hello !
Descends d'un étage. En plus, c'est amateur, je trouve.
Service public.
Like, what the fuck ? Ouais. Nous, on a lancé notre truc, tu vois. Et puis, écoute, en termes de recommandations...
Ah, oui, j'allais te poser, t'as une petite reco.
Oh, petite reco, oui. Il y en a plusieurs, mais on va rester simple. Je vais vous conseiller Enki Bilal en BD, pour le coup.
Comment, quoi ?
Enki Bilal.
Qu'est-ce que Enki Bilal ? J'ai l'impression que t'as dit Nicki Minaj, en fait.
Ah oui, pardon, c'est ça. Starships are meant to fly, voilà. Ça. Donc voilà, allez voir tous les clips de Nicki Minaj, c'est super. Non, sans déconner, lisez Enki Bilal, c'est un grand, grand BDiste qui a aussi été réalisateur de films un peu chelous.
Ouais. Est-ce qu'il a eu un grand prix Angoulême ?
Eh oui.
Oui, ah bon, c'est bon. Alors,
voilà, tu peux. Mais voilà, Enki Bilal, parce que c'est du chelou, c'est des années 70, il y a un peu de cul aussi, mais c'est surtout du chelou. Voilà. Gaspard ?
Et moi, en termes de reco, je vais aller plutôt sur le terrain du cinéma.
Le centenaire.
En vous recommandant... Je vais faire dans le populaire, je vais vous recommander un cinéaste suédois. Qui s'appelle Ruben Östlund et
prenez un crayon pour noter hein, parce que
ça.
Le Östlund
et Östlund
voilà. Il y a 40 lettres que vous n'entendez pas mais qui
non,
sont
non,
là
c'est vraiment Östlund et notamment son dernier film qui a eu la Palme d'Or qui s'appelle The Square et en fait qui s'amuse à foutre des gros taquets aux gens qui ont des grandes idéologies, en fait il s'amuse à les mettre face aux leurs propres contradictions et finalement ça m'y fait un peu penser et vraiment The Square qui montre un homme qui se prétend être très de gauche et très ouvert et qui en fait va se retrouver face à des situations totalement extrêmes et qui va pas savoir comment en fait va être obligé de se contredire et je pense que c'est un lointain héritier de l'humour de Lozier.
Bah écoute, merci pour cette recommandation. On se retrouve la semaine prochaine pour quelqu'un qui crache aussi beaucoup.
Ah oui.
Parce que monsieur Boris Vian nous parlera de J'irai cracher sur vos tombes. Et la prochaine BD qu'on aura le plaisir de faire ensemble, ce sera une BD de Spirou.
Et oui.
Une BD un peu spéciale.
Une BD très récente, finalement.
Récente, puisque c'est les reboots de Spirou ou Spirou ou l'espoir malgré tout.
Ouais, d'Emile Bravo, qui tient une très grande œuvre.
Voilà, donc on vous dit à la semaine prochaine, vous faites beaucoup de bisous, partagez, likez, pouce bleu, merci à la tata de Gaspard.
Merci ma tata.
On vous dit à la semaine prochaine, bisous.
Ciao.
On les appelle bourgeois, bohème ou bien bobo pour les intimes. Dans les chansons de Vincent Delerme, on les retrouve à chaque rime. Ils sont une nouvelle classe, après les bourges et les prolos. Pas loin des beaufs, quoique plus classe, mais vous en dressez le tableau. Sont un peu artistes, c'est déjà ça, mais leur passion, c'est leur boulot. Dans l'informatique, les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts. Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos. Ils vivent dans les beaux quartiers ou en banlieue, mais dans un loft, atelier d'artistes branchés, bien plus tendance que l'avenue Foch. Ont des enfants bien élevés qui ont lu Le Petit Prince à 6 ans. Dans des écoles privées pagailles, je me comprends. Ils fument un joint de temps en temps, font leurs courses dans les marchés bio, roulent en 4x4, mais plus souvent préfèrent se déplacer à vélo. Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos. Ils lisent Houellebecq ou Philippe Jean, les Arocs et Télérama. Leur livre de chevet, c'est sûrant, près du catalogue Ikea. Ils aiment les restos japonais et le cinéma coréen. Passent leurs vacances au Cap Ferré, la Côte d'Azur, franchement, ça craint. Ils regardent surtout Arte, Canal+, c'est pour les blaireaux. Sauf pour les matchs du PSG et de temps en temps, un petit porno. Les bobos, les bobos, les bobos. Ils écoutent sur leur chaîne IFI, France Info, toute la journée. Alain Bachung, François Hardy et forcément Gérard Manset. Ils aiment des proches sans même savoir que des proches les détestaient. Bedos et Jean-Marie Bigard, même s'ils ont honte de l'avouer. Ils aiment Jacques Lang et Sarkozy, mais votent toujours écolo. Ils adorent le maire de Paris, Ardisson et son pote Marco. Les bobos,
bizarre.
Les bobos. Les bobos,
ça.
Les bobos. La femme se fringue chez Diesel, lui c'est Armani ou Kenzo. Pour leur cachemire, toujours nickel. Sadie et Voltaire, je dis bravo. Ils fréquentent beaucoup les musées, les galeries d'art, les vieux bistrots. Boivent de la manzana glacée en écoutant Manu Chao. Ma plume est un peu assassine pour ces gens que je n'aime pas trop. Par certains côtés, j'imagine que je fais aussi partie du lot. Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos, les bobos,
qui ça?
Les bobos,
ah bon, mais où ça?
Les bobos,
ah d'accord, mais qui ça?
Les bobos.